Bonjour, je m'appelle Martine Podesto. Je suis directrice des éditions chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur. Mon invité d'aujourd'hui est journaliste littéraire. Elle collabore au journal Le Devoir, au magazine Elle Québec, à l'actualité et à la télévision de Radio-Canada. Parmi les honneurs qui jalonnent son parcours, on compte le prix Judith Jasmin, le prix du magazine canadien, le Grand Prix des magazines du Québec et le prix Jules Fournier du Conseil supérieur de la langue française. Écrivaine, elle a fait paraître son premier livre en 2006, Duras, l'impossible, un récit personnel inspiré de l'écrivaine Marguerite Duras. Femme de reporter de guerre, elle a également publié en 2010 un récit éclairant sur le sujet « Promets-moi que tu reviendras vivant ». Elle est aussi l'auteure du roman de René Martel, un portrait touchant de la chanteuse, paru en 2014 chez Québec Amérique. Danielle Lorrain, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui chez l'éditeur. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bien, c'est un plaisir partagé.
Bien, c'est gentil. Écoute, Danielle, tu diriges une toute nouvelle collection littéraire chez Québec Amérique. Et cette collection, donc, a vu le jour cet automne. C'est, le titre de cette collection est 3. Donc, 3, le chiffre 3. Pourquoi 3?
Bien, parce que j'ai demandé à chaque auteur de nous raconter 3 souvenirs, donc 3 moments marquants dans leur vie, des moments où peut-être tout a basculé ou encore où tout aurait pu basculer. Donc, ce sont des récits écrits au jeu, intimes, personnels, fondés sur des moments vraiment importants dans leur vie. Mais la particularité de cette collection, c'est que dans chacun de ces souvenirs se glisse, à un moment donné, quelque chose d'inventé. Donc, on bascule dans chacun de ces souvenirs dans la fiction.
Et bien sûr, on ne sait pas quand.
Ben, c'est ça l'intérêt.
Et de là, tout le mystère aussi. Hein? Ça s'est présenté comment? Comment ça s'est imposé à toi, cette idée de récits, de 3, d'abord de 3 récits qui basculeraient tout à coup dans la fiction?
En fait, ça faisait longtemps que je voulais diriger une collection littéraire, que je voulais travailler de près avec des auteurs. Parce que comme journaliste littéraire, je suis habituée de plonger dans les textes et je suis habituée aussi très souvent, parce que je fais des entrevues, de rencontrer les auteurs et d'essayer de trouver en fait l'humanité derrière le littéraire. Mm-hmm. Hein? Qu'est-ce qui parle de l'auteur en fait? Donc ça fait longtemps que je voulais créer une collection, travailler avec des auteurs sur des récits intimes. Et je dirais qu'il y a il y a un film et un livre qui m'ont vraiment éclairée, qui ont dit « Ah! Oui, voilà ce que je veux faire. » Alors, le film, c'est 3 souvenirs de ma jeunesse de Desplechin, un film français, dans lequel le personnage est l'alter ego du réalisateur. Donc, c'est un film en grande partie autobiographique. Et c'est avec Mathieu Amalric qui a le rôle principal. Et quand ça commence, c'est un diplomate qui a travaillé longtemps dans les pays de l'Est. Il débarque en France, son pays. Il est aux douanes. Il se fait arrêter. Il y a un problème de passeport qui est lié à son identité. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, on va plonger dans 3 moments de sa jeunesse, donc 3 souvenirs de ma jeunesse, où on va découvrir comment il en est arrivé là, pourquoi il y a un problème d'identité. Et donc, les 3 souvenirs sont racontés les uns à la suite des autres. Ça, c'est le film. Le livre, c'est un livre de Delphine de Vigan qui a pour titre « D'après une histoire vraie », un livre extraordinaire qui est paru en 2015. C'est un livre écrit au jeu où Delphine de Vigan se met elle-même en scène comme auteur, qui vient de publier un livre qui a eu un énorme succès en France. Ce livre-là, je l'avais déjà lu, et le titre, c'était « Ce que le jour doit à la nuit ». Et ce livre-là, ça raconte, en fait, c'est très autobiographique, ça raconte sa jeunesse et comment sa mère était folle et suicidaire, mettons, pour parler assez crûment. Mm-hmm. Et donc, Je reviens au livre D'après une histoire vraie. Dans D'après une histoire vraie, elle vient de publier Ce que le jour doit à la nuit. Elle a un succès énorme. Elle se promène dans les librairies, dans les salons du livre, et les gens viennent la voir. Mais est-ce que c'est vraiment vrai, ce que vous racontez? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc là, le glissement pour moi vers la fiction est intéressant. Et ce qui est fort dans ce livre-là, c'est qu'on est au début dans une autofiction psychologique, et plus on avance, plus on glisse dans un thriller à la Stephen King, et là on se dit, mais voyons, dans quel genre de livre suis-je? Et à la fin, on se dit, non, ça se peut pas, là, elle exagère. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a raconté qui est vrai et qu'est-ce qu'elle a inventé? Donc, si tu mêles les deux ensemble, ça donne un peu la collection 3.
Et tu disais tout à l'heure que tu avais rencontré dans ta carrière de journaliste plusieurs auteurs pour parler avec eux de leurs œuvres, pour parler de leur démarche, etc. Mais là, ce que tu fais tout à coup de l'autre côté, ce nouveau métier, en fait, cette nouvelle facette, disons, de ton métier, qui est de faire de la direction littéraire, c'est totalement différent. Là, tu entres avec eux dans leurs œuvres. De quelle façon, justement, as-tu travaillé avec ces auteurs pour les accompagner dans leur parcours, dans l'écriture de leur...
J'adore ça parce que moi, j'ai toujours été une lectrice qui dévore, qui adore les livres, qui aime entrer dans un univers. Mais là, j'étais avant la publication du livre. Donc, je participais au projet et je dois te dire que donc, les deux premiers livres qu'on publie, Catherine Mavrikakis et Marc Séguin, quand je les ai rencontrés individuellement, à chaque fois, je leur ai parlé de mon projet, puis j'ai dit, ces trois souvenirs, déjà, là, je voyais là, qu'ils commençaient à penser à des moments marquants dans leur vie. Donc... leurs yeux s'allumaient, là, tu sais.
Ah oui, donc ça leur a pas fait peur, parce que moi, c'est la question qu'on peut se poser aussi. C'est quand même un exercice qui exige énormément d'abandon, parce qu'on leur demande de fouiller dans leur... souvenirs réels.
Tout à fait.
Et on ne sait pas à quel moment la fiction embarque. Donc, il se peut, et peut-être que toi seul le sais, puis on ne veut pas savoir exactement.
Écoute, mais je ne le sais pas. Marc Séguin, je ne le sais pas.
Le sais pas.
Catherine, je connais un peu plus son œuvre et sa vie. Je ne peux pas te dire tout ce qu'il y a d'inventé ou pas, mais je sais un peu plus ce qui est vraiment fondé sur sa vie.
OK.
Mais je n'ai pas voulu faire ça, parce que moi, j'ai voulu travailler avec eux sur le plan littéraire. Donc, et je voulais qu'ils se sentent l'un et l'autre à l'aise pour aller au fond des choses sans que moi, je puisse juger ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Ne l'est pas. Parce qu'en fait, je me suis demandé ce qui est arrivé que tu aies rencontré des auteurs, par exemple, qui a eu un peu peur peut-être de se lancer, de faire cet exercice-là, parce qu'on leur demande normalement, normalement la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, les créateurs mettent en scène des univers absolument inventés, de la fiction, donc sont des auteurs de fiction, et là on leur demande tout à coup de baser leur récit sur leur propre vie.
De se mouiller.
De se mouiller carrément, et de justement d'offrir un peu en pâture leur existence, et de se prêter à ce jeu-là, aussi, à savoir, mon Dieu, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Ça peut pas faire peur à certains auteurs,
Je suis dans l'approche de plusieurs auteurs en ce moment. Évidemment, on lance les deux premiers. Je suis en train de préparer l'année prochaine, mais je ne peux pas vous dire qui encore. Mais j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup d'approches. Je dirais que j'ai approché une vingtaine d'écrivains jusqu'à maintenant. Il y en a beaucoup qui sont intéressés, mais qui n'étaient pas disponibles cette année, peut-être même pas l'année prochaine. Mais donc, je travaille à long terme. Et certains auteurs que j'ai approchés ont dit... « Oh non, je suis incapable de parler de moi. Je suis trop mal à l'aise avec ça. » Mais je leur dis « Oui, mais attends, on s'en fout parce que... »
C'est la matière première seulement. Après,
à un moment donné, tu peux partir dans n'importe quoi et tout inventer. Et les gens ne sauront pas ce qui est inventé. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, mettons que moi, Danielle Lorrain, je publie un livre dans la collection 3. Je vais écrire au jeu. Moi, journaliste littéraire, mettons, auteur de tel livre, tu sais, implicitement, on va me reconnaître. Mm-hmm. Donc oui, là, il faut mouiller sa chemise un peu parce qu'on parle de soi. Mais quand est-ce que je vais commencer à dire des choses qui ne sont pas vraies? Le lecteur ne le sait pas. Donc, quand j'essaie de convaincre des auteurs que je sens un peu rébarbatifs à l'idée de parler de leur vie, ben j'essaie de faire en sorte de leur dire, ben il y a le glissement vers la fiction. Et je sais aussi, pour les deux premiers, les deux premiers livres, que les deux auteurs y étaient allumés par le souvenir. Mais quand en plus je leur ai dit, on peut inventer, ah là, c'est encore mieux. L'important pour moi, en tout cas, c'est sûr, c'est que c'est d'aller vers des auteurs que j'aime, que j'admire, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je pense qu'il peut y avoir une chimie possible. Je n'ai pas envie de publier pour publier. C'est vraiment pour moi important de bien choisir les auteurs.
Tu parles de chimie et c'est d'autant plus important que justement ces auteurs, parce qu'ils se dévoilent en partie et que toi, ton travail d'éditrice consiste à entrer un peu avec eux dans le texte, ça demande de leur part un abandon, mais une grande confiance aussi, j'imagine.
Mais en fait, comment on a procédé? Moi, je leur ai demandé, est-ce que, à chacun, séparément, est-ce que tu préfères écrire tes trois souvenirs? T'sais, en tout, c'est des petits livres de 120-140 pages. Oui. Est-ce que tu préfères écrire tes trois souvenirs, m'envoyer ça, puis qu'on travaille ensuite, ou un souvenir à la fois? Et les deux ont décidé, après le premier souvenir, de l'envoyer. Ah. Et là, j'ai fait des petits commentaires, mais sans entrer trop profondément dans le texte. Juste, ah, ben garde, ça, c'est bon, cette idée-là. Ça serait bien si vous pouvez la reprendre dans le deuxième souvenir, faire un rappel ou, tu sais, des choses comme ça. Juste des indications assez larges. Même chose après le deuxième souvenir. Même chose après le troisième souvenir. Ensuite, ils ont colligé leurs trois souvenirs. Et là, j'ai tout relu d'un trait. Et là, on a vraiment travaillé profondément dans le texte, c'est enlever des répétitions, des choses comme ça. Et je dois dire que ces deux auteurs de grands talents, mais qui sont pas chatouilleux.
Très ouverts.
Très ouverts. Ils aiment ça travailler. Ils aiment ça avoir des commentaires, tu sais.
Parlons-en de ces auteurs. Oui. Mais pas trop quand même. Juste un peu. Parce qu'on veut laisser les gens aller découvrir ces deux premiers ouvrages. Mais quand même, j'aimerais qu'on... Parlons déjà de Catherine. Ce qui restera est le titre de son œuvre. Catherine Mavrikakis, pardon, est l'auteur de plusieurs romans qui se sont démarqués par leur intensité, c'est moins qu'on puisse dire. Je pense à La Ballade d'Ali Baba, qui a été finaliste au prix littéraire des collégiens, et au roman Le ciel de Bay City, qui a remporté le grand prix du livre de Montréal, le prix des libraires et le prix littéraire des collégiens. Donc, on a une auteure extrêmement talentueuse. Donc, je te laisse me parler un petit peu de...
En fait, donc, elle se met en scène dans trois souvenirs. Le premier, c'est l'enfance, ensuite, c'est l'adolescence, ensuite, la vie adulte. Donc, c'est vraiment chronologique. Mais, en fait, j'ai envie de vous parler, parce qu'elle a écrit un avant premier souvenir. Oui. Et dans cet avant-premier souvenir, elle donne un peu les clés de ce qui s'en vient. Et donc, elle explique que elle était destinée à quelque chose de plus grand qu'elle, qui était un peu maléfique, et que toute sa vie, elle a voulu un peu se battre contre ce destin qui était annoncé, parce qu'elle portait, elle porte le nom de sa grand-mère paternelle, qui est morte à 36 ans, et c'est comme si elle portait le fardeau de la vie de cette grand-mère. Et donc, on va la voir à la fois dans l'enfance, à l'adolescence, la vie adulte, lutter contre ce destin qui lui est imposé. Et juste pour terminer là-dessus, je dirais que ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle ouvre de l'intime vers le collectif. Elle fait allusion à d'autres, parce qu'elle décrit les catastrophes qu'elle a vécues dans sa vie. Et elle fait référence aux catastrophes collectives. Par exemple, septembre 2001, la fusillade à Polytechnique, ce qui a eu dans une mosquée de Québec en janvier, la tuerie là aussi. Donc, elle relie l'intime et le collectif, et c'est fait de façon vraiment magistrale. Je nais le 7 janvier 1961 à Chicago, aux États-Unis, dans le comté de Cook. Je nais prédestinée à ma mort à 36 ans. Mon père, qui n'assiste pas à ma naissance, mais qui viendra brièvement de Montréal dans les jours qui suivent ma venue au monde, jouera très intuitivement et avec brio la fée Carabosse au-dessus de mon berceau. Pourquoi me veut-il tant de mal? Il a refusé de venir assister à l'accouchement de ma mère, mais il arrive à temps pour me nommer Catherine. Catherine Mavrikakis, en écho au nom de sa mère morte à 36 ans d'une longue maladie, en laissant trois enfants seuls avec un père marin perdu quelque part dans les sept mers du Sud. Je nais, mais je meurs aussitôt. Ou encore, je suis déjà morte dès ma naissance à 36 ans. une répétition à venir de la vie de Catherine, ma grand-mère grecque, faiseuse d'anges orphelins. En ce début de janvier 1961, mon père est arrivé en coup de vent à Chicago. Il a été réveillé dans la nuit du 6 au 7 janvier, au moment même où je me suis mise à respirer mal, très mal. Ma grand-mère lui est apparue en rêve pour lui dire que j'étais là. « Ta fille est née », aurait dit Catherine en grec. Sur ces mots prononcés d'outre-tombe, mon père a aussitôt pris sa voiture et conduit d'une traite jusqu'à Chicago dans la tempête. Il est venu me baptiser, en quelque sorte, d'un prénom que ma mère n'aimait pas, Catherine. Mais il a fait plus. En parcourant les 1000 miles qui séparent Montréal de Chicago, il est venu me fabriquer un avenir, celui d'une morte. Contre le sort lancé par mon père en janvier 1961, je passerai ma vie à me battre, à chercher des contre-sorts comme Harry Potter ou Antonin Artaud, à prononcer des paroles de désenvoûtement, à braver les sortilèges de toutes sortes. Par la force, je me suis faite sorcière. J'ai appris des formules magiques, moi qui n'aime pas la sorcellerie, afin de ne pas disparaître vivante, engloutie dans la parole de mon père.
Pour Marc Séguin, en fait, on est toujours dans un autre registre quand même.
Oui.
Mais donc, bon, Marc Séguin, que les gens connaissent bien, qui est un peintre acclamé dans plusieurs musées de manière internationale, qui est aussi un écrivain aguerri. Son premier roman, La foi du braconnier, avait remporté aussi le prix littéraire des collégiens. Hollywood, Nord Alice, aussi publié chez Le MÉAC, avaient tous deux reçu une excellente critique. Donc, parle-nous maintenant de l'œuvre de Marc, Les repentir.
Donc, Les repentir, c'est très intéressant parce que, dans le fond, il se raconte au jeu comme peintre et comme écrivain,
oui.
Et comment il s'est découvert artiste. Donc, on découvre comment il a commencé à dessiner et pourquoi, dans quel contexte. On découvre comment est né son amour des mots. Et donc là, il se livre vraiment beaucoup. Et il raconte un souvenir d'enfance très marquant où il a commis peut-être quelque chose d'irréparable. Et le ton du livre, c'est un ton constamment inquiet, angoissé. On sent que c'est quelqu'un qui se pose la question « Comment est-ce que je peux aimer les autres si moi-même je suis pas capable de communiquer?
Oui. »
C'est quelqu'un qui se sent coupé du monde et c'est haletant dans ce sens-là. On le suit, c'est mystérieux. Mm-hmm. Vraiment, moi, ça m'a pris aux tripes.
Oh, ouais.
Ça nous prend vraiment aux tripes, ce livre-là. Puis il y a une grande histoire d'amour aussi,
oui,
qui traverse,
oui,
tout le roman, une histoire d'amour tragique,
oui,
très bien écrit. On sait que Marc Séguin, dans les histoires d'amour, il excelle.
Oui.
C'est très sensuel par moments. C'est vraiment un très, très beau roman.
Vraiment beau.
Je n'ai jamais vraiment été inquiétée par mon état affectif, autrement que pour faire semblant que j'en avais un, pour rassurer les autres, surtout pour apaiser les autres, faire en sorte que ça semble conforme. Mon absence de sentiment était normale. Je n'avais rien connu d'autre. Je suis aussi daltonien et ça fascine les gens que je sois peintre. L'inexistence de mes émotions ne m'a jamais semblé être un problème. Je percevais que, pour les autres, oui. C'était une crainte pour plusieurs. J'avais donc appris, dès la petite enfance, à faire semblant d'être triste, heureux, déçu, fébrile, envieux, jaloux, amoureux. Et toutes ces dispositions et toutes ces consciences qui font la somptuosité des vies humaines. J'avais appris à révéler des états prévisibles, inventer la confiance aux autres, inspirer l'illusion. Je voyais clairement le besoin, tranquilliser les gens sur ma nature, ne pas les inquiéter, ne jamais les inquiéter. Alors, j'ai appris à jouer à toutes les émotions et tous les sentiments.
Daniel, dans le cadre de ces émissions, de ces balados, diffusion de chez l'éditeur, je demande toujours à mon invité de nous présenter un auteur, de nous parler d'un auteur ou d'une œuvre qui lui a particulièrement plu. Dans ton cas, ici, c'est d'une œuvre dont il est question. C'est une œuvre d'Andrea Michaud, Bondré. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi de nous parler de cet auteur ou de cette œuvre?
Ben, en fait, c'est une auteure que je fréquente depuis longtemps. Ah, ce roman en particulier, Bondré, donc c'est paru en 2014, oui. C'était son 10e roman et elle avait obtenu un 2e prix du gouverneur général pour ce roman-là. Oui. C'est un roman vraiment exceptionnel. C'est un thriller psychologique qui met en scène en fait le meurtre de deux adolescentes et qui parle des répercussions de ces meurtres sur toute une communauté. Et moi, j'avais beaucoup aimé son roman précédent qui s'appelait Rivière tremblante, mm-hmm. qui était la disparition de deux enfants et on voyait les répercussions de ces disparitions chez les proches, les parents. Je trouve qu'elle est très forte pour fouiller les sentiments troubles de ces personnages. Comment on peut être dévasté par une situation. Et elle arrive toujours à mettre le doigt sur le point tournant. Quand est-ce que tout fout le camp et que là, on arrive dans une tragédie sans nom. Et c'est le cas dans Bondré, donc. Et l'autre chose que j'aime beaucoup chez elle aussi, c'est que la nature, les paysages sont très, très importants. Ils deviennent presque un personnage. Et là, Bondré se passe donc au bord d'un lac entouré de forêts. On est dans une espèce d'endroit de villégiature paradisiaque, où vont les familles l'été, et tout à coup, bang! Un meurtre d'adolescente, un deuxième meurtre d'adolescente est commis, et là, les parents sont vraiment dévastés. Les autres parents se disent « Mais mon Dieu, moi, ma petite-fille, je ne vais pas la laisser sortir, c'est dangereux. » Il y a une enquête, il y a plusieurs suspects. Tout le monde devient comme suspect, un peu suspecte le voisin. Et donc, bref, on comprend que dans cette ville qui est située à la frontière des États-Unis et du Québec, rien ne sera plus jamais comme avant. Et la force de Andrea Michaud, c'est qu'elle se met dans la tête de tous les personnages. Donc, elle est dans la tête des deux mortes qu'elle fait parler. Elle est dans la tête du tueur et de tous les autres personnages autour. Et en plus, donc ça, c'est une narration omnisciente à la troisième personne. En plus, il y a un jeu d'une fille qui avait, je pense, 10-12 ans au moment où ces deux drames sont arrivés. Donc, ça se passe à l'été 1967. Et là, avec le recul, elle revit tout ce qui s'est passé pendant cet été-là et nous le revivons avec elle. C'est vraiment très bien écrit. C'est haletant.
Oui, et c'est porté par une plume, un souffle exceptionnel, la plume d'Andrea Michaud qui est somptueuse.
Tout à fait. Donc, et elle est à la fois dans le sordide, mais d'une grande humanité et d'une grande sensibilité. Oui. Parvenu à la clairière, il avait déposé la fille sur le sol et lui avait jeté l'eau de sa gourde à la figure. La fraîcheur de l'eau l'avait réveillée et elle s'était demandé un moment qui elle était, où elle était. Il avait déjà vu cela dans les tranchées des soldats qui ne revenaient à eux que pour se rendre compte qu'ils allaient mourir. Un éclair de frayeur traversait leurs regards et c'était presque fini. Certains hurlaient, d'autres se débattaient, d'autres encore avalaient leurs armes. Mais le résultat était le même. Les tranchées étaient rouges et la mort l'emportait. Il n'avait pas eu à attendre longtemps pour que cet éclair fuse dans les yeux de Sissy Morgan, suivi des cris et des insultes. Il lui avait ensuite suffi de pousser la fille jusqu'au centre de la clairière et le claquement du piège avait résonné. Il s'apprêtait à abandonner la chair de cet animal à qui en voudrait quand il avait remarqué la chevelure, dont l'étalement sur l'herbe prenait la forme d'un jeune renard levé sur la tête et l'épaule de la fille. Sans réfléchir, il avait sorti son couteau pour prélever la fourrure, pareille à celle que Landry brossait amoureusement sur la table de sa cabane en adressant quelques prières aux dieux de la terre. En lissant la chevelure, il avait regretté de n'avoir pas pris celle de l'autre fille, d'un roux qui évoquait celle du renard. Mais il avait eu peur des yeux ouverts, de la main effrayée qui battait l'air convulsivement parmi les rafales de mitraillettes. Aujourd'hui, cependant, il était d'un calme que rien ne saurait perturber. Les tirs d'assaut avaient pris fin. Le monde avait retrouvé sa tranquillité. Il avait quitté la clairière en tenant au bout de son bras la crinière de Sissy Morgan, une longue queue d'animal curieusement blond, s'imprégnant de rosée.
Je te remercie infiniment, Daniel, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de ta nouvelle collection, parue chez Québec-Amérique cet automne, là, ces jours-ci. Donc, ta collection 3 et de ces deux premières œuvres magnifiques de Marc Séguin et Catherine Mavrikakis. Merci d'avoir été avec moi. Merci aussi d'avoir fait la lecture de cet extrait magnifique tiré du roman « Bondré » d'Andrea Michaud. Merci beaucoup, Daniel.
Merci beaucoup, Martine.
Chez l'éditeur est une production des éditions Québec-Amérique, réalisée par Philippe Collard. Si vous aimez notre émission, je vous encourage à le manifester en donnant une note ou en rédigeant un commentaire sur la page de Chez l'éditeur dans la boutique iTunes. Le thème musical de l'émission est l'œuvre de Monopole. La deuxième pièce que vous avez entendue est une composition de Puddington Bear. Je vous invite à passer nous voir à notre café littéraire chez l'éditeur, situé au 7240 rue Saint-Hubert, à Montréal. Je suis Martine Podesto et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Chez l'éditeur.